Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 20, Le Conseil. Le haut chancelier se sentit indéfinissablement mal à l'aise, et ce dès les premières minutes du conseil extraordinaire qu'il avait lui-même convoqué. Certes, on avait respecté scrupuleusement l'horaire et le protocole, mais les visages détendus et même sarcastiques prouvaient assez qu'on considérait ce conseil comme un caprice du chancelier destiné à lui donner de l'importance. Pire encore, on parlait d'autre chose avant le début de la session, comme si les affaires commerciales ou l'aménagement d'un énième jardin avaient la moindre importance. Seul, totalement seul devant sa prémonition, il se débattait contre l'image qu'il renvoyait au ministre de chaque guilde, celle d'un homme d'influence et d'intrigue qui, ayant vu sa carrière plafonnée à l'université, inventait des affaires d'État pour jouer dans la grande cour. Une envie terrible d'utiliser le verbe pour les faire taire le démangeait, mais il dut se réfréner. L'usage du verbe, entre ces hauts personnages qui le maîtrisaient tous à la perfection, avait été depuis des lustres banni du conseil, et seule l'éloquence de la raison pouvait ici porter quelque argument. « Messieurs, commença-t-il, je sais que vous considérez pour la plupart que ma convocation à ce conseil est un nouveau caprice de ma part. J'aimerais que vous tâchiez pour une fois de considérer l'intérêt de la cité avant le goût de la politique et que vous vous débarrassiez de vos préjugés à mon encontre afin de porter un regard objectif sur la situation qui me préoccupe et qui devrait, ce me semble, nous préoccuper tous au premier chef. » Les voix se turent, mais les sourires de connivence persistèrent. La partie était perdue d'avance. Le chancelier était trop intelligent pour en douter. Et pourtant, il se fit un devoir de faire comme s'il avait une chance de les convaincre. « Nous sommes tout oui, » dit poliment le ministre du Pouvoir. « Je ne vous apprendrai rien en récapitulant la situation en ville basse. Une révolution se trame, n'en doutez pas, avec tous les appareils qui lui sont propres. » Elénor distille aux bas citoyens une propagande en règle, tandis que ce tavernier Keller est en train de lever une armée. Nos services de renseignement ont pu observer l'entraînement très sérieux au combat qui se livre quotidiennement. Les techniques du ce temps, bien que loin d'être maîtrisées, ne leur sont pas inconnues, et je suggère de ne mépriser ni leur nombre, ni leur flamme. Il me semble urgent d'établir un plan pour étouffer ce mouvement, et de l'appliquer aussi vite que possible. « Auriez-vous peur d'une armée de gueux, chancelier? Et ajouteriez-vous la lâcheté à la liste de vos péchés mignons ?» demanda en riant le ministre du Savoir. « Sous-estimer ses ennemis n'est pas une preuve de courage, messieurs, mais de stupidité. Comptez-vous attendre indéfiniment avant de vous pencher sur ce problème ?»« Ce problème, comme vous l'appelez, dit le ministre de l'Ordre, est pour l'instant à l'état de fantasme. » Imaginez-vous un seul instant que cette soi-disant armée se soulève. Nos guildes exécutives les mettront en pièces en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Nous avons la discipline, la stratégie, la tactique, l'armement, sans compter un détail qui semble vous échapper. Nous avons le verbe. Ils ont le nombre, protesta le chancelier, et ils n'ont rien à perdre. Si vous voulez mon avis, dit le ministre du Commerce, ce mouvement s'essoufflera de lui-même. Jouer aux petits soldats va les affamer. Ils ne pourront pas tenir longtemps à ce rythme. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'une urgence, rétorqua le chancelier. Il se pourrait que ce fantasme, comme vous l'appelez, se réalise dans quelques jours, quelques semaines, qui peut savoir. Que préconisez-vous ? Demanda le ministre du Pouvoir. De faire appel à la guilde de l'ombre, de supprimer Elénor et l'autre fauteur de troubles, de procéder à quelques arrestations et exécutions publiques, de terrifier la ville basse afin qu'elle rentre dans le rang la queue entre les jambes. Supprimer une haute citoyenne ? Elle ne mérite plus ce titre, souligna le chancelier. Elle a été assez claire sur ce point. Vous n'y pensez pas ? Ce serait un affront sans précédent envers une famille qui nous sert loyalement. Je ne vous comprends pas, dit le chancelier. Elle est en train d'apprendre aux bas citoyens à lire et à écrire. Elle est en train de les éduquer, d'ouvrir leur esprit à notre pouvoir. C'est un acte d'une rare subversion. Mais elle nous rend service, dit en riant le ministre des Affaires navales. Nos ouvriers seront peut-être un peu plus efficaces s'ils sont moins stupides. Un ouvrier doit être stupide, répondit le chancelier. Un ouvrier intelligent est un futur révolté. Vous êtes responsable de l'université, chancelier. Vous savez, parmi tous, combien le parcours pour parvenir à notre niveau de connaissance est long et difficile. Croyez-vous qu'une seule personne puisse transformer ces illettrés inertes en quoi que ce soit, en si peu de temps? Vous ne connaissez pas Eleanor. Moi, je la connais. Sa maîtrise du verbe est exceptionnelle. Sa détermination est exceptionnelle. Ce n'est pas une personne parmi d'autres. Vous supportez mal qu'elle ait résisté à votre contrainte, mais est-ce là une raison pour exagérer sa dangerosité? Une seule question, messieurs. Qu'avez-vous à perdre en suivant mes conseils? La paix civile en ville basse est essentielle pour l'industrie et le commerce. Une effusion de sang serait totalement contre-productive, et nous avons, comme vous le savez, des échéances à respecter. Il n'est pas envisageable de mettre en péril nos bénéfices annuels pour une menace aussi vague. Le chancelier soupira. Nous tomberons tous, dit-il simplement. Sa déclaration tomba dans un silence étonné. Pensez-vous sérieusement ce que vous dites? Demanda le ministre de l'Ordre. Ce que je pense, messieurs, n'a plus aucune importance. Le chancelier, avec le panache propre à ceux qui ont raison contre une assemblée stupide, quitta le conseil. On le suivit du regard, avec l'arrogance propre à ceux qui triomphent dans l'erreur. Quelques jours plus tard, le chancelier fut dérangé dans son vaste bureau par la visite de Zoroastre. Cet homme, de médiocre réputation, lui était vaguement familier, juste assez pour qu'il le gratifiât d'une certaine courtoisie, tout en lui faisant comprendre que des affaires urgentes le retiendraient sous peu. L'homme semblait mal à l'aise et presque honteux, et le chancelier crut discerner dans son torrent d'émotions une lueur d'espoir. Cet homme venait à lui dans la détresse et voyait en lui un recours. Il s'en rendit compte au bout de quelques instants et lui consacra une attention redoublée. « Que me vaut le plaisir de votre visite ? » demanda-t-il d'un ton neutre. « Je ne sais par où commencer, » dit Zoroastre, dont le visage extrêmement maquillé transpirait sous le fard. « J'ai peur de vous paraître ridicule ou indiscret. J'ai entendu parler du conseil que vous aviez convoqué et de votre démarche. » « Ce sont là des affaires d'État, » dit gravement le chancelier. « Un simple citoyen ne devrait pas s'en mêler. »« Je sais, monsieur le chancelier. Pourtant, je me suis laissé dire que vous vous inquiétiez au sujet de la ville basse et que vous ne trouviez pas beaucoup d'écho parmi nos plus hauts représentants. »« Vous êtes bien renseigné, » observa le chancelier d'un ton neutre. « Je viens à vous car je partage votre inquiétude, » continua Zoroastre. « À vrai dire, elle me ronge depuis plusieurs lunes. » Et je viens déposer ce fardeau à vos pieds. » Le chancelier considéra à nouveau son interlocuteur. « Quelle fonction occupez-vous ? » lui demanda-t-il. « Je suis greffier à la guilde de la justice, » répondit Zoroastre humblement. « Par quel biais avez-vous pu accéder à des informations de nature à vous inquiéter ? » ?»« Ce n'est pas dans le cadre de mon travail, monsieur le chancelier. J'ai reçu une visite, enfin un guet-apens serait un mot plus adéquat. Une invitation au plaisir de la chair m'a fait sortir de chez moi nuitamment, et la personne qui m'attendait était un bas citoyen. Le chancelier fronça les sourcils. Continuez. Il s'agissait de cet agitateur, Keller. Il m'a menacé. Pourquoi vous? C'est l'un de mes bâtards, dit Zoroastre. J'ignore comment il a pu remonter jusqu'à moi, j'ignore comment il a pu pénétrer en haute ville, j'ignore qui a glissé cette invitation dans ma demeure, mais je sais qu'il ne plaisantait pas. A-t-il pris tous ces risques simplement pour vous menacer? Non, la conversation s'est envenimée. Il me demandait de le reconnaître comme mon fils, et ma réaction l'a mis très en colère. Pourquoi diable ne l'avez-vous pas contraint et livré aux autorités compétentes? J'ai essayé, monsieur le chancelier. Êtes-vous en train de me dire qu'un bas citoyen a résisté à votre verbe? Oui, monsieur le chancelier. Je n'ai pas osé rendre cet affront public. » Le chancelier prit quelques instants pour réfléchir. « Que vous a-t-il dit exactement ?»« Qu'il reviendrait, qu'il tuerait toute la haute ville s'il le fallait, qu'il me mettrait à genoux et qu'il m'apprendrait le sens du mot barbarie. » « À qui avez-vous raconté cette histoire ?»« À vous seul, monsieur le chancelier. Elle ne me fait guère honneur, mais je ne pouvais la garder secrète en sachant que vous preniez cette menace au sérieux. » « Vous avez commis beaucoup d'imprudence, mon ami. Il vous aurait été facile de mettre cet homme dans votre poche, en lui servant d'aimables discours et de vous en remettre à notre justice pour le débusquer. Vous avez écouté votre orgueil sans vous soucier de blesser celui d'un ennemi dont vous avez sous-estimé la puissance. Je sais, monsieur le chancelier, j'espérais que ces erreurs pourraient être réparées aujourd'hui. On ne répare pas une haine qu'on a allumée. Si le feu s'éteint par l'eau, c'est par le sang que s'éteint la haine. Reste à savoir le sang de qui. Voulez-vous que j'aille le tuer ? Demanda Zoroastre dans un accès de témérité. Vous ? Gloussa le chancelier. Voyons, votre fils est un guerrier, Zoroastre, et vous tremblez rien qu'en prononçant son nom. Il vous tuerait le premier, soyez-en sûr. Mais ce n'est qu'un bas citoyen, N'avez-vous pas encore compris ? Ils sont des hommes comme nous. La seule différence entre nous est celle de l'éducation. Et lorsqu'ils en prendront conscience, notre domination prendra fin, car elle ne repose sur rien. Zoroastre était pantois. Il ne savait que répondre. Cet homme, que vous méprisez parce qu'il est né en ville basse, a réussi un exploit dont peu de hauts citoyens seraient capables. Là où l'humanité, l'intelligence et la volonté ne sont pas cultivées, il arrive qu'elles poussent toutes seules, comme des mauvaises herbes, avec plus de vigueur encore, car elles se nourrissent de nourriture plus rude. « Vous admirez cet homme ?» murmura Zoroastre avec horreur. « Vous devriez être flatté, et si je l'admire, il n'en reste pas moins mon ennemi. C'est ce que notre civilisation décadente a du mal à concevoir. Qu'allez-vous faire ?»« Je vais faire ce que vous n'avez pas fait, je vais réfléchir. » Zoroastre semblait plus pitoyable encore qu'au début de l'entretien. Le chancelier le congédia sans une parole de réconfort et le regarda ramper vers la sortie sans dissimuler son dégoût. Puis il se servit un verre de liqueur d'amandine, sa boisson préférée, et s'installa confortablement pour méditer.